en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Nos séances de l'Académie des sciences morales commencent toujours par la petite cloche qui signale le début de la séance. Alain Finkielkraut me disait à l'instant qu'à l'Académie française, on était ponctuel à la minute près, mais qu'il n'y avait pas de cloche. En revanche, à 16h30, tout le monde se levait, pas à 16h31, pas à 16h29, à 16h30. Cher Alain, vous allez rapprocher le micro de vous-même. Voilà, encore. Oui. Voilà. Pour que nous vous entendions bien. Alors, que puis-je rappeler d'Alain Finkielkraut devant vous, qui êtes venu pour cette deuxième édition des Conversations chez Monsieur Thiers, et votre affluence montre d'abord la connaissance que vous avez d'Alain Finkielkraut et aussi l'intérêt que vous portez à ce qu'il écrit et à ce qu'il dit, notamment à son émission Réplique de France Culture. Ceci est aussi enregistré. Cette conversation est enregistrée, elle sera destinée à Canal Académie et vous pourrez la retrouver. Je propose à ceux qui viennent ici pour la première fois d'avoir la gentillesse de laisser leur adresse mail pour que non seulement nous puissions vous tenir informés des activités de cette maison, mais que vous puissiez aller consulter, évidemment, le site internet de la Fondation et de l'Hôtel Thiers, et par conséquent, pouvoir écouter cette émission, en tout cas cette retransmission. Cher Alain, vous publiez à l'instant, ces jours-ci, un livre d'échange de lettres avec Elisabeth Fontenay qui s'appelle « En terrain miné ». Mais nous allons parcourir un peu l'évolution qui a été la vôtre. Je dois dire que le plaisir que j'ai cette semaine, c'est de voisiner avec vous dans les pages du Figaro magazine, auquel vous donnez une très très jolie, très belle interview qui m'a inspiré certaines de mes questions. Mais si vous voulez bien, je vais commencer par une question dite d'actualité. D'actualité parce que le président de la République est allé cette semaine aux Antilles visiter deux îles sinistrées par l'ouragan Irma. Je veux parler donc du président de la République et de ce qui s'est passé à Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Cette zone est fréquemment soumise à des cyclones extrêmement violents, et ce fut le cas pour la Guadeloupe en septembre, c'est toujours au mois de septembre que ça se produit, c'est la saison des cyclones, en septembre 1928. Et au début du mois d'octobre 1928, la République a envoyé sur place non pas son président comme aujourd'hui, mais un sénateur. Ce sénateur s'appelait Henri Béranger. Henri Béranger était naturellement radical socialiste, comme il se doit à l'époque. Il avait été au service de Georges Clemenceau. C'était donc un sénateur assez énergique et assez, comment dirait-on, assez fort du point de vue de l'expression de ses idées. Et en arrivant à la mairie de Pointe-à-Pitre, je voudrais vous citer ses propos et, naturellement, vous faire réagir là-dessus. Propos que j'ai naturellement retrouvés dans les journaux de l'époque. Il commence par citer les vers célèbres d'Alfred de Vigny. Donc, le contexte est rigoureusement le même que cette semaine. Une île de la Guadeloupe, non pas Saint-Barth et Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais la Guadeloupe dévastée. Et il dit ceci aux gens qui sont réunis à la mairie. Il cite Alfred de Vigny, disant « Je suis l'impassible théâtre que ne peut remuer le pied de ses acteurs. On me dit une mère et je suis une tombe. Et Béranger, le sénateur, ajoute « Si la nature immorale peut écraser l'homme, l'esprit de l'homme se redresse toujours contre la nature et la dompte pour reconstruire des civilisations qu'elle n'a pu concevoir. » Cher Alain, je voudrais vous demander de commenter, si je puis dire, ce propos par rapport à ce qu'on ne sait plus prononcer aujourd'hui.
Eh bien, écoutez, je vais essayer de répondre à votre question. En effet, parce qu'elle est inattendue.
Oui.
Donc, je vais peut-être tâtonner et bredouiller. Non, je pense qu'on m'entend. Voilà. Ne me faites pas manger le micro. Donc, une chose est frappante, d'abord, c'est le choix d'une citation d'Alfred de Vigny. Il est clair qu'aujourd'hui, dans le monde de la communication qui est le nôtre, les poètes n'ont pas leur place. Si de temps en temps, quelques citations, quelques apophthegmes de René Char, peut-être, survivent au désastre. Mais leur répétition a quelque chose de ridicule. La poésie n'est plus au cœur de notre civilisation. Est-ce vrai pour la littérature tout entière? Je ne saurais le dire. En tout cas, pour la poésie, il n'y a aucun doute. Donc c'est la première chose qui me frappe. Un sénateur arrive sur des îles sinistrées, c'est que les écologistes devraient lire pour être vraiment fidèles à la sensibilité dont ils se réclament. Jonas, dans ce livre, répond à un philosophe marxiste, Ernst Bloch, qui avait écrit Le principe espérance. Et la gauche, c'est l'espérance. La gauche s'identifie en quelque sorte à l'espoir. Il dit oui, mais l'heure n'est peut-être plus à l'espérance, à l'affirmation de l'espérance, à la promesse, parce que l'avenir n'est pas prometteur, il est menaçant. Et la Terre qui était le cadre immuable des actions humaines, tombe dans le champ de la responsabilité des hommes, pour les raisons que j'ai dites tout à l'heure.
Bien sûr.
La Terre, mais peut-être aussi la langue, qui s'étiole sous nos yeux, la civilisation, la culture, la beauté du monde, ces paysages de plus en plus défigurés par la rurbanisation, comme on dit, par une industrialisation massive. Et c'est cela que j'entends. C'est cela que je veux dire, si vous voulez. Je ne sais pas plus. Si le conservatisme, c'est la conservation de l'ordre social, je ne suis pas pour la révolution, mais je ne suis pas pour le maintien de l'ordre social tel qu'il est, pour que toutes les positions soient figées, et pour la préservation des privilèges. Je ne suis pas un héritier moi-même. Je dois tout à une école qui respectait encore réellement l'égalité des chances. Et je ne l'oublie pas. Et quand j'interviens sur les questions de l'école, c'est au nom de l'égalité des chances qui me semble aujourd'hui, si vous voulez, détruite par le pseudo-égalitarisme idéologique qu'une certaine gauche a voulu mettre en place. Donc, conservateur en ce sens-là, évidemment non, mais en effet, sensible à ce que Hans Jonas nous indique et à la nécessité de substituer à un principe espérance qui n'est pas à la mesure des défis de notre époque, un principe responsabilité. Autrement dit, une écologie intégrale. La terre, mais aussi, je le disais, la culture, la langue et ce qui reste de la beauté du monde.
J'aimerais, pour illustrer encore ce propos, que vous reveniez sur les choix que vous avez faits des symboles que porte votre épée d'académicien. Puisque sur cette épée d'académicien, il y a une tête de vache, une citation de Peggy et une date que vous avez inscrite. Je suis incertain sur la... Oui, c'est ça.
Une lettre.
Absolument, une lettre.
Oui, une lettre, oui.
Donc, dites-nous un peu, rappelez-nous un peu ce que sont les symboles que vous avez fait inscrire sur cette épée.
Mais d'abord,
Et évidemment, tout ceci correspond au cœur de votre philosophie.
La tête de vache, oui, ça veut dire... je crois que depuis toujours, je n'aime pas tous les animaux. Ça, c'est pas vrai. Je crois pas qu'on puisse aimer tous les animaux. Mais j'ai une sorte de d'élection particulière depuis très longtemps pour les gros mammifères. Donc, j'aime les vaches et j'aime les éléphants. Et depuis très longtemps. Mais cette petite passion enfantine s'est prolongée, grâce à Élisabeth de Fontenay, en une véritable réflexion. Et je dois beaucoup à un livre qu'elle a écrit, un très gros livre, Le silence des bêtes. Un livre absolument magnifique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette question, nous ne l'abordons pas dans le livre, parce que ma dette est trop grande. Nous avons des petits points de désaccord. Je l'avais invité à une émission qui a été à réplique, et c'est une émission qui était particulièrement tendue, sur la corrida, avec un philosophe de l'école normale supérieure que Elisabeth connaît, qui s'appelle Francis Wolff, et qui défend la corrida. Et moi, je n'étais ni un adversaire ni un défenseur, mais j'avais vu quelques mois avant l'émission une corrida devenue d'ailleurs mythique, une feria avec José Thomas. Et j'avais été, à mon corps défendant, ébloui par José Thomas, son courage, sa virtuosité, son élégance. Et je l'ai dit dans l'émission. Et j'ai dit, ça ne fait pas de moi un amoureux de la corrida, je n'en verrai jamais d'autres, parce que celle-là était trop belle, mais je ne peux pas nier le sentiment qui m'a étreint à ce moment-là. Et j'ai ajouté que le vrai scandale aujourd'hui, ce n'est pas le maintien d'une tradition qui a connu beaucoup de métamorphoses, mais qui est quand même ancienne, c'est l'élevage industriel, des porcs, ou les fermes des mille vaches, etc., ou des conditions d'abattage. Et que ce scandale devait être dénoncé, mais sans prendre à la corrida et mélanger la question que pose, si vous voulez, le scandale de ce qui est devenu la production animale dans la modernité et des traditions comme la corrida, ça ne me semble pas légitime, ça ne me semble pas judicieux. Élisabeth de Fontenay était en désaccord total avec ça, et j'ai reçu un nombre de lettres, mais inimaginables, des lettres qui ont été de protestation, extrêmement violentes, qui ont été envoyées à France Culture, à Polytechnique, où j'enseignais encore, et chez mon éditeur.
Voilà,
je n'avais jamais reçu. J'ai été l'objet de certaines attaques et même de moments de lynchage médiatique, mais je n'avais jamais reçu autant de lettres indignées. Ça a été absolument terrible. Bon, avec Élisabeth de Fontenay, je veux dire, la querelle n'est pas allée très loin. Nous avons ce petit point de désaccord, mais ça ne valait pas une lettre, d'autant que je n'ai pas une position ferme sur la corrida.
Oui.
Ça ne valait pas une lettre. Et, encore une fois, sur la cause animale, ma dette est trop grande vis-à-vis d'Élisabeth de Fontenay. Voilà. Donc la vache, c'est cela. C'est l'amour ancien des gros mammifères, plus ce que je dois à Élisabeth de Fontenay, et cette espèce de protestation contre les horreurs de l'élevage industriel. Je me souviens, d'ailleurs, il y a quelques mois, je suis allé à un procès intenté à la ferme des mille vaches, parce que ma femme était l'avocate de l'association qui intentait ce procès. Et à cette occasion, je suis allé voir un agriculteur de la Somme qui refusait justement ces conditions d'enfermement des bêtes. Et il l'avait dit dans une émission de télévision. Il m'avait révélé l'existence, et je suis allé vérifier chez lui, de la danse des vaches. Il dit voilà, quand les vaches sortent de l'état, quittent l'étable au sortir de l'hiver, et qu'elles retrouvent le pré, pendant 10 minutes, elles sont tellement contentes qu'elles dansent. Et gambadent comme des petites filles. Je lui dis, c'est pas vrai, il raconte des histoires. Donc je suis allé assister à la danse des vaches, chez cet agriculteur qui s'appelle Monsieur Largillière, et il y a un reportage dans Marianne, et il a, et je suis témoin, oui, ça existe, et il avait dit lors de cette émission de télévision que peut-être que l'élevage industriel était plus rentable, mais que pour lui, la danse des vaches annuelle à laquelle il assistait, ça n'avait pas de prix. Et c'est un peu de tout cela qu'il s'agissait avec cette vache sur le pommeau de mon épée. La citation de Peggy, c'est « La République une et indivisible est notre royaume de France ». J'aime cette citation parce qu'elle elle traduit très bien ce qu'était le grand esprit républicain de la Troisième République. Parce que c'était aussi Jules Ferry. Nous sommes les héritiers de 89, disent les républicains, mais nous voulons, notamment à travers l'école, que tous les enfants... Et ceux que nous alphabétisons, ceux qui viennent même de familles analphabètes, soient les héritiers de toute l'histoire de France. De toute l'histoire de France. Nous ne pensons pas en termes de rupture, nous pensons en termes de continuité. Et je suis très sensible à cela, et encore plus sensible maintenant, après la parution, à mon avis, et la parution surtout le succès du livre de collectif dirigé par Patrick Boucheron, Histoire mondiale de la France. Parce que là, s'il n'y a plus de continuité, il y a une dispersion de dates pour bien nous prouver, en fait, qu'on ne peut pas parler de quelque chose comme la France. Et comme si il fallait méthodiquement, systématiquement, dépouiller la France de toute identité, mot évidemment honni, pour la rendre plus ouverte, plus hospitalière. Et je ne vois pas, je crois au contraire que ça ne peut qu'aggraver les tensions. Bref, voilà le sens de ma citation de Peggy. Puis j'ai mis la lettre, la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph. Voilà. Alors même que si j'ai un peu appris l'hébreu dans ma 10e année, j'ai oublié le peu que j'en savais et que je n'ai pas reçu une éducation religieuse et que mes parents venaient tous les deux de Pologne. Mais mon père seul parlait yiddish, ma mère... Non, donc entre eux, ils parlaient français ou polonais. Mon père lisait un journal quotidien yiddish, parce qu'il y avait deux grands quotidiens yiddish à Paris pendant, dans les années 40, 50, 60. Je crois que ça s'est arrêté dans les années 70. Donc je voyais son quotidien, mais moi, je n'avais pas accès à ça. Je connais quelques mots. Mais j'ai voulu, malgré tout, à travers cette lettre, afficher, si j'ose dire, l'autre grande fidélité qui est la mienne.
Mais cette identité qui fait partie de notre conversation d'aujourd'hui, il y a 40 ans, ou même il y a 30 ans, en mai 68, quand vous assistez à tous ces événements, etc., l'identité ne se pose pas dans ce pays. Et quand, il y a 4 ans, vous avez publié « L'identité malheureuse », vous avez rencontré votre public, parce que précisément... Cette question est devenue centrale. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, non seulement la question d'identité ne se posait pas, mais il y avait, parmi les gauchistes dont je faisais partie, une hostilité franche à toute idée d'appartenance nationale. Nous pensions la politique en termes de guerre civile. C'est d'ailleurs, je crois, le titre d'un livre...
Vers la guerre civile.
De Julie, absolument. De Serge Julie. Oui. Vers la guerre civile, c'était notre espoir. Au fond, c'était ça. C'est-à-dire que c'est la lutte de classe, mais le vrai modèle de la lutte de classe, c'est la guerre civile. Et dire la lutte de classe, c'est la réintroduction comme paradigme de la guerre civile qui était pourtant, si vous voulez, le cauchemar des penseurs du XVIIe siècle. Et ce contre quoi ils ont édifié le système libéral. Hobbes, le premier d'entre eux, celui qui a quand même fondé même la monarchie absolue sur le droit des hommes à leur propre conservation. Donc, c'est Léo Strauss dit, ben oui, c'est la monarchie absolue, mais c'est quand même le premier penseur libéral, puisque tout repose sur un droit initial. Eh bien, il dit, son obsession, c'était la guerre civile. Il fallait construire des sociétés qui nous évitent la guerre civile, donc qui désamorcent les conflits d'opinion entre les hommes. Et il dit, ben voilà, ce que les hommes ont en commun, c'est quand même la volonté de vivre, la peur de la mort violente, et on peut fonder une société là-dessus. Et en effet, avec le marxisme, la guerre civile a fait son grand retour comme modèle. C'était un repoussoir du libéralisme, et c'est devenu avec le marxisme le modèle. Et ce modèle nous inspirait encore, même si c'était sous une forme plus fantasmatique que réelle. Donc, pas question de réfléchir en termes de nation. Nous nous sommes réconciliés avec la démocratie, la génération qui est la mienne en tout cas, dans les années 70, au moment où a éclaté l'imposture totalitaire, la dissidence, Solzhenitsyn, etc. Mais c'était la démocratie en général, ce n'était pas encore la nation. La nation, je l'ai redécouverte, oui, en effet, quand je l'ai sentie fragile et menacée. Quand j'ai vu, si vous voulez, j'ai été le témoin d'un double phénomène, crise de civilisation, quelque chose qui ne se transmet plus, un patrimoine qui tombe en déshérence, une langue que les Français cessent d'habiter, on communique de plus en plus et on parle de plus en plus mal sa propre langue, et donc crise de civilisation, et aussi, ce qui m'a pris au dépourvu, comme tout le monde, choc de civilisation.
Oui.
Bien sûr, choc de civilisation, le mot d'ailleurs, l'expression est ancienne, elle ne remonte pas à Huntington, c'est Bernard Lewis, islamologue, qui en a parlé le premier, et ce choc des civilisations et des cultures, il a lieu, et notamment à l'intérieur des nations, c'est bien pourquoi on peut parler, en effet, de décomposition, de désintégration, ou, comme le fait Gilles Kepel, de fracture française. Hein. Dans la préface au livre au deuxième grand livre dirigé par Georges Bensoussan, il y avait les territoires perdus de la République, et il y a eu cette année une France soumise, livre qui est fait de témoignages de professeurs, mais aussi, cette fois, d'infirmiers, de médecins, de policiers, de gendarmes, etc. Eh bien, dans la préface, Elisabeth Badinter dit qu'une seconde société s'insinue au sein de notre République et elle vise le séparatisme, voire la sécession. Donc, tout cela existe et, justement, la France attaquée, la France vulnérable, la France minée de l'intérieur, vidée par elle-même de sa propre substance, mais devenue chère. J'ai compris quel trésor elle était quand, précisément, elle a commencé à s'effriter sous mes yeux. Voilà le changement qui s'est fait.
Oui.
Donc, l'identité, je l'ai découverte quand elle est devenue malheureuse.
C'est
moi-même.
Ça.
Moi-même.
Oui,
et en effet... C'est une des raisons pour lesquelles je suis souvent l'objet d'attaques virulentes, c'est comment puis-je reprendre à mon compte le thème de l'identité ? N'est-ce pas chasser sur les terres du Front National ? N'est-ce pas faire le jeu du Front National ? Voilà une sorte de reproche récurrent. Elisabeth de Fontenay est partagée, parce que cette inquiétude identitaire, elle l'éprouve aussi, parce qu'elle me défend contre les attaques extrêmement virulentes dont je suis l'objet, et elle le fait depuis longtemps avec une loyauté extrême, mais parce qu'aussi, elle s'inquiète de la récupération dont je peux être l'objet et de mon indifférence à cette récupération. Elle se dit, mais je devrais protester, je devrais faire en sorte de devenir irrécupérable, et je dois dire que dans l'état actuel des choses, ce n'est pas mon problème.
Elle a un peu échoué, oui, tout à fait. Je vais. Nous sommes malheureusement perpétuellement dans l'ambiance du terrorisme, et je vais vous citer un autre texte, celui-là tout récent, paru dans Libération, signé par François Burga, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui dit ceci. « Combattre, non point comme l'ont fait les illusoires centres de déradicalisation, les idéologies radicales, mais plus efficacement en amont, les dysfonctionnements en tout genre du vivre ensemble national ou international qui poussent tant d'exclus à adopter ces idéologies. » Ça, c'est la première partie du propos. Ce qui signifie que les idéologies radicales, nous en sommes responsables parce que nous n'avons pas mis un terme, nous n'avons pas combattu en nous-mêmes les dysfonctionnements du vivre ensemble. C'est là où se pose une question, mais vraiment fondamentale, qui est, est-ce que nous sommes vraiment responsables de ce terrorisme, de ce djihad, de ce développement de l'islamisme radical? De la même manière, c'est le même auteur d'ailleurs qui m'y conduit, il indique « Pour commémorer la rafle du Veldiv, c'est l'extrême droite du pitoyable Netanyahou, champion mondial des contre-performances humanistes que nous invitons en grande pompe, ouvrez les guillemets, un assassin pour commémorer un massacre, comme l'a superbement résumé la réalisatrice Simone Biton. » Donc là, il me semble qu'on a tout ce sur quoi vous travaillez de manière constante.
Oui, en effet, cette deuxième partie du texte que vous venez de me lire est absolument terrifiante. Je suis je m'oppose depuis longtemps à la politique de Netanyahou. Je n'aime pas ce qu'il fait. Je n'aime pas le maintien du statu quo parce que je crois que les Palestiniens ont droit à un État et parce que je crois qu'il menace aussi l'entreprise sioniste. Le sionisme, c'était les Juifs en majorité quelque part sur la Terre qui peuvent se gouverner. Or, au nom du sionisme, Netanyahou et ses partisans sont en train de créer un État où les Juifs vont devenir minoritaires. Donc, ils détruisent le projet même auquel ils se disent attachés. Je trouve que c'est terrible. Mais je sais aussi que la paralysie de ce qu'on appelle le processus de paix tient au fait que lorsque les Israéliens se sont retirés de territoire, la guerre s'est rapprochée d'eux. Ils ont quitté le Liban, ils ont le Hezbollah, ils ont quitté, sous la direction de Sharon, certes de manière unilatérale, mais ils l'ont fait. Ce qui était très difficile, Gaza, puisque ça passait, à la différence du Sud-Liban, par le démantèlement d'un certain nombre de colonies, et ils ont le Hamas, et des roquettes des deux côtés. Ils se disent donc, si nous abandonnons la Cisjordanie, nous aurons le Hamas aussi. L'autorité palestinienne ne tient que par la corruption. On peut aussi comprendre cet argument. Quant à dire un assassin pour commémorer un massacre, la rafle du Veldiv, hein, c'était la complicité de Vichy dans la solution finale du problème juif. Il y avait 700 000 réfugiés palestiniens après la guerre de 48, 700 000, qui n'ont pas tous été d'ailleurs chassés par les forces juives, puisqu'Israël n'existait pas encore, loin de là, mais certains d'entre eux, oui. Il y en a 5 millions aujourd'hui. 5 millions aujourd'hui, parce que, bon, avec l'UMRA, etc., on est réfugié de père en fils. Mais voilà. Et il y a eu 6 millions de morts. Dans la Shoah. Donc cette comparaison est tout simplement ignoble. Je n'ai pas aimé le discours de Netanyahou. Il n'était pas à la hauteur de l'événement. Mais l'idée, si vous voulez, qu'on ne peut pas faire venir un chef d'État israélien pour commémorer le génocide des Juifs parce que les nazis d'aujourd'hui, c'est eux, cette idée m'est absolument intolérable. Alors même que je fais tout ce que je peux, et je ne peux pas grand-chose, en effet, pour que les Israéliens changent de politique et donc de gouvernement. Ce n'est pas du même ordre. Donc cette attaque est abominable, et elle en dit long sur un certain état d'esprit de la gauche française d'aujourd'hui. Et cet état d'esprit, en effet, il montre un attachement, si vous voulez, crispé à une certaine représentation du monde. Le monde se divise entre dominants et dominés. Les dominants, c'est l'Occident. Israël est un fer de lance de l'Occident. Les dominants ont tous les torts. Les dominés sont innocents, même quand ils sont coupables. Voilà. Et donc, que dit François Burga? Il dit, le terrorisme, ce sont des gens dont on n'a pas voulu faire des sujets à part entière, qui sont devenus des sujets entièrement à part. Ils sont victimes de la stigmatisation, victimes de l'exclusion, victimes de la ségrégation, victimes de l'inégalité, en d'autres termes, et c'est l'inégalité qui les radicalise. Donc, il faut que nous changions pour que eux changent. Et la monstruosité vient de nous. L'Occident est coupable de ce qui lui arrive. Et les raisons de mon divorce avec une partie de la gauche sont exactement là. Je trouve ce discours, si vous voulez, fondé sur le déni, je trouve qu'il aboutit à minimiser le nouvel antisémitisme, alors même que on parle de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et à aussi légitimer, excuser le pire. Je ne dis pas que toute la gauche est engagée dans cette voie, mais une partie de la gauche, oui, c'est clair. Elle refuse de remettre en cause sa vision initiale. La gauche, c'est la défense des faibles, le parti des opprimés et des déshérités. Ce que je peux comprendre, mais ce mouvement se fige en idéologie et refuse de prendre en compte une réalité perturbante, celle-là même, justement, du choc des cultures. Et c'est ce refus de voir qui conduit à la gauche à se mentir à elle-même, à mentir et à justifier l'injustifiable. Je ne dis pas toute la gauche, je dis une partie de la gauche.
Nous sommes aujourd'hui devant un problème quasi insoluble, mais vous allez apporter votre propre commentaire sur ce point. C'est que nous avons plusieurs centaines, voire plus d'un millier de jeunes Français de confession musulmane qui, convaincus par toutes sortes de moyens, sont partis faire le djihad sur les théâtres du Proche et Moyen-Orient. Au moment où Daesh, l'État islamique, est en grand recul militaire, ces garçons, qui parfois ont constitué des familles avec des enfants, ces garçons, pour ceux qui survivent, plusieurs centaines, sont évidemment tentés de rejoindre le pays qui les a élevés. Comment allons-nous recréer pour cela une identité qu'ils ont notoirement perdue?
Ça, je ne saurais pas vous répondre. Ça me rappelle aussi le débat sur la déchéance de nationalité qui a crispé comment dire, qui a divisé la société française. Il ne s'agissait pas de la déchéance de nationalité en soi. Il ne s'agissait pas non plus de la déchéance de nationalité pour les binationaux, mais pour les binationaux convaincus de terrorisme, donc qui avaient retourné leurs armes contre la France. Je pense que cette décision était, cette mesure était tout à fait légitime pour éviter toutes les critiques selon laquelle elle était discriminatoire. Elle aurait dû être assortie par une mesure d'indignité nationale pour les gens nés en France qui, eux-mêmes, ont basculé dans le terrorisme. On ne peut pas les dénationaliser, mais l'indignité nationale, ça existe, ça a été appliqué après la libération, et comme ça, les choses auraient été peut-être plus claires. Mais je pense que c'était un faux procès que de crier au racisme, à la discrimination, quand on parlait de déchéance de nationalité. En effet, il s'agissait quand même de gens qui avaient une autre nationalité et qui haïssaient la France au point de tuer des Français en tant que Français.
C'est ça.
Quand même. Bon. Alors là, je ne sais pas quel traitement on peut réserver à des gens qui ont fait le djihad et qui reviennent en France. Sont-ils encore intégrables ? Peut-on prendre au sérieux vraiment le repentir qu'ils affichent en rentrant ? Je suis sceptique. Simplement, mais je pose la question de manière plus générale. Comment peut-on faire pour intégrer les nouvelles populations ? Je crois que l'idée sous-jacente à l'entreprise de Boucheron
sur l'histoire mondiale de
l'histoire
France.
Mondiale de la France est une idée folle. Parce qu'il s'agit, encore une fois, de dépouiller la France de toute identité propre pour la rendre plus hospitalière. Je crois que cette croyance en une société inclusive qui serait faite de la multiplicité actuelle de ses composantes, cette idée que on réconciliera les musulmans avec la France en leur disant que la France n'est rien et que tout ce qu'elle est, eh ben, elle le doit presque exclusivement à l'islam. C'est d'abord un mensonge. Et en plus, ça n'aboutira pas à une véritable amélioration de ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Je crois, je continue à croire, dans les vertus de l'assimilation. Mais entendons-nous bien. Il ne s'agit pas de fondre tout le monde dans le même moule. Ce n'est pas l'assimilation que j'ai vécue. On ne m'a jamais imposé cette exigence, nulle part, à aucun moment. Moi, j'ai vécu le verbe assimiler avec un complément d'objet direct, pas avec un complément d'objet indirect. Il ne s'agissait pas pour moi de m'assimiler à, il s'agissait pour moi d'assimiler quelque chose.
C'est ça,
d'assimiler la langue française, d'assimiler l'histoire de France, d'assimiler cette culture. Et fort de cette culture, d'essayer de devenir quelqu'un de singulier. Parce qu'on ne peut pas, il s'agit de penser par soi-même, mais on ne peut pas penser par soi-même à partir de soi-même. Je pense que j'ai été élevé dans une société et instruit dans une école qui m'offrait cette chance. Je ne vois pas pourquoi on la refuserait aux enfants d'aujourd'hui. Certes, les conditions ne sont pas les mêmes, l'immigration n'est pas la même, elle est extra-européenne et elle est tellement massive que l'assimilation est très difficile. Donc je suis inquiet. Simplement, je ne crois absolument pas dans les alternatives qu'on propose. Ce ne sont pas des remèdes. Ce sont des manières d'aggraver le mal de la division.
Alors, chers amis, maintenant, nous allons passer le micro dans la salle, parce que c'est vous qui allez poser les questions du dernier quart d'heure ou des dernières 20 minutes, s'il vous plaît. Après quoi, Alain Finkielkraut se trouvera dans le salon annexe où il pourra signer son livre à votre intention. Donc, c'est vous qui, désormais, tenez le micro. Alors, à qui va la première question ?
Il n'y en a peut-être pas. Personne, c'est génial.
Si, il y en a une au premier rang.
Il y a madame aussi.
Madame aussi, parfait. Monsieur.
Est-ce que vous regrettez d'avoir invité Renaud Camus à votre émission Réplique ?
Ça fait partie d'une... Vous avez déjà lu En terre à miner, alors.
Voilà, donc Renaud Camus.
Qui est d'abord Renaud Camus ?
Renaud Camus, qui est très présent dans notre dialogue, puisque Isabelle de Fontenay, dans une de ses lettres, me dit, au nom aussi de ses propres amis, qu'il est mon destin fatal. Renaud Camus est un écrivain français qui était connu dans un petit cercle et qui a été l'objet d'attaques extrêmement violentes en 2000 pour son journal Campagne de France. Il écrit un journal depuis 1987, je crois. Un volume paraissait par an. Maintenant, il l'écrit en ligne. Et puis, il s'auto-édite. Et dans ce journal Campagne de France, qui était daté 1994, même c'est paru en 2000, il s'étonnait de la fréquence des thèmes juifs dans l'émission Panorama.
Ah oui,
Il se disait, voilà, il y avait un certain nombre de journalistes, d'écrivains juifs dans cette émission, et ça déséquilibrait un peu les choses. Il était accusé des pures turpitudes. On a déclaré qu'il était antisémite, qu'il comptait les juifs à France Culture. Il s'en est expliqué dans un livre très important qui s'appelle « Du sens », un livre de 600 pages. Et je dois dire que j'ai fait d'ailleurs à ce moment-là, à mon apparition de « Du sens », une émission avec lui et Emmanuel Carrère. Et il nous a convaincus tous les deux. Cette accusation d'antisémitisme ne tenait pas. Je n'entre pas dans le détail, mais je fais un premier constat. Renaud Camus est, si vous voulez, vilipendé et censuré au nom de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, et notamment par des journalistes et par des intellectuels. Et donc, on dit, comment vous pouvez inviter à réplique un raciste et un antisémite ? Je rappelle que l'intellectuel, cette figure d'intellectuel, est apparue au moment de l'affaire Dreyfus, contre un procès bâclé. Hein ? Voilà, des savants, des écrivains se sont dressés contre un procès bâclé. Le premier livre, l'un des premiers livres suscités par l'affaire, s'intitule « L'épreuve ». Il est signé Jaurès. On regarde, on enquête, et on voit que... Dreyfus a été condamné sans preuve. On s'est même aperçu que certaines preuves avaient été fabriquées. Or, aujourd'hui, les procureurs de Renaud Camus se targuent tous de n'avoir ouvert aucun de ses livres. Et j'ai eu un échange à cet égard très instructif, encore à France Inter, il y a quelques jours, avec Nicolas Demorand. Vous soutenez un antisémite d'extrême droite. Je lui dis, lisez Du sens. Il n'a pas lu Du sens. Il s'en fout. Donc, il y a là quelque chose, si vous voulez, de tout à fait étrange. Comment on peut se réclamer du dreyfusisme en trahissant à ce point son esprit originel ? C'était la protestation du scrupule, contre, justement, l'idéologie. Là, c'est l'idéologie qui nous enjoint d'étouffer tout scrupule. De cela, je ne peux pas me rendre complice. On veut en plus... Je ne peux pas céder à l'injonction de ceux qui me disent qu'il faut rompre tout lien avec lui, alors que j'ai tout profond désaccord avec lui, que j'exprime dans le livre, pour réintégrer le cercle des gens respectables. Maintenant, il est attaqué aussi parce qu'il parle du grand remplacement. Renaud Camus se demande, comme un écrivain, un essayiste américain, Christopher Caldwell, se pose la question suivante. L'Europe peut-elle rester la même si sa population change ? Sa réponse est négative. Mais il y a beaucoup de gens aussi dont la réponse est négative, mais qui se réjouissent du changement. Et qui s'en réjouissent dans des termes très proches de Renaud Camus. Ainsi, l'écrivain Édouard Louis, lisant Chouchou du politiquement correct, lisant un éditorial... une revue patronnée par Mouloud Achour, Télé-Ramadan, où il est écrit « Nous sommes le grand remplacement », félicite les auteurs en disant bravo, depuis le temps qu'on espère le grand remplacement de la vieille France. Donc, le grand remplacement selon Renaud Camus, c'est-à-dire quand c'est négatif, quand on parle du grand remplacement de manière négative, c'est un fantasme ignoble. Quand on en parle de manière positive, c'est une réalité délicieuse. Il y a là un problème. Et j'ai invité Renaud Camus pour cela. Il est l'auteur d'une formule que tout le monde utilise. Tout le monde. Certains pour s'en réclamer, comme Éric Zemmour, par exemple, pour la reprendre en ce moment. D'autres pour la fustiger. D'autres encore pour la renverser. Moi, je n'emploie pas cette formule. Je le dis aussi à Elisabeth de Fondet, parce que je vois une mutation démographique. Je vois même une substitution démographique dans certaines villes de France et d'Île-de-France. Substitution démographique, c'est un mot de la démographe Michel Tribala. Je vois les problèmes qu'elle pose, mais si j'adopte ce terme, cette expression, alors je suis conduit, malgré moi, à voir dans tout noir, tout arabe que je croise dans la rue, un envahisseur. Je ne veux pas céder à cette tentation. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc, je me refuse à l'employer. Mais je prends acte de ce fait. Ce discours est partout, et l'auteur de cette formule est bâillonné. Donc je dis, quelque chose qui ne va pas, une anomalie. Je corrige cette anomalie. J'invite Renaud Camus avec le démographe Hervé Lebras, qui lui est totalement opposé. Et je les fais parler l'un et l'autre. Et en plus, dans le débat, j'ai l'occasion de dire tout ce qui me différencie de Renaud Camus. Donc c'est une manière pour moi aussi de sortir, enfin d'expliciter les choses. J'ai reçu évidemment beaucoup de lettres, très hostiles, un peu moins que pour la corrida, mais pas mal quand même. J'ai été convoqué par le médiateur de France Culture lors d'une émission pour m'expliquer, mais c'était tant mieux, c'était... D'habitude, c'est lui qui répond aux lettres. Là, il me demandait de répondre. Je l'ai fait. J'ai répondu à toutes les objections que j'avais reçues. Et la direction de France Culture a été tout à fait convaincue par mes réponses. Et donc, non, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je n'aime pas le climat qui règne dans ce pays. Et je n'aime pas qu'on bâillonne un homme alors même qu'on ne cesse de parler de ce qu'il dit. Il y a là quelque chose qui me semble absolument anormal.
Question ? Oui, j'ai une question concernant l'école. Je partage pleinement votre point de vue sur l'école, et en tant que professeur d'histoire, j'aimerais vous demander quel programme préconiseriez-vous pour mettre en place la citation de Peggy, « La République, une et indivisible est notre royaume de France », et convaincre nos élèves de cela.
Vous êtes professeur d'histoire, pas moi. Donc, je ne veux pas, je pourrais en littérature dire des choses. Je pense que la chronologie compte par-dessus tout. Je crois que c'est aussi un auteur polonais qui cité souvent par Renaud Camus, Casimir Brandis, qui parlait de certains de ses contemporains, ignorant qu'il y a eu des siècles. Ils ne savaient même pas qu'il y a eu des siècles. Il faut donner ce savoir aux enfants. Il y a eu des siècles, et cela, l'enseignement de l'histoire et d'une histoire chronologique peut le permettre. Je crois que c'est absolument capital. Se repérer dans le temps. Et d'ailleurs, à cet égard, c'est vrai dans l'enseignement de l'histoire, c'est vrai dans l'enseignement de la littérature. C'est vrai aussi dans l'enseignement de la philosophie. La philosophie ne peut pas se réduire à l'histoire des idées, ni la littérature au Lagarde et Michard, mais c'est important de savoir ce qu'étaient les classiques, ce qu'a représenté le mouvement romantique, les Lumières, etc. Et tout cela, donc, avec un respect et une transmission de la chronologie. Je pense que c'est absolument capital. Et, alors, en plus... On fait un faux procès à l'école de la République. Peut-être, sous la troisième, l'enseignement était-il empreint d'une tonalité patriotique particulièrement forte. C'était le petit Lavis, hein, bien sûr. Nos aïeux, nos ancêtres les Gaulois. Mais c'était nos ancêtres les Gaulois pour dire que, pour ancrer justement l'histoire de France dans l'histoire du peuple. C'était plutôt les Gaulois que les Francs. Donc, c'était cela. Et puis, il y avait la question de l'Alsace-Lorraine. Moi, j'ai été élève sous la quatrième, fin de la quatrième et le début de la cinquième République. Je n'ai jamais eu à subir un enseignement cocardier, ni même patriotique. Donc, il y avait un effort d'objectivité. Et on nous dit, il ne faut pas, si vous voulez, oublier les versants noirs de notre histoire. Moi, je suis déjà un vieil homme, mais l'enseignement... on m'a parlé au collège du commerce triangulaire. On m'en a parlé à moi. Donc, dans les années... au début des années 60, je savais ce que c'était que le commerce triangulaire. La France, on peut partir, vous parlez de Péguy, on peut partir de Renan, un héritage de gloire et de regrets. Donc voilà, les regrets aussi, nous devons pouvoir les faire partager. Mais il est important que l'enseignement de l'histoire permettent à tous les enfants, d'où qu'ils viennent, de se sentir tributaires, de se sentir les héritiers de cette histoire. Et pour qu'ils se sentent les héritiers de cette histoire, c'est pas la peine, comme le demandait Najat Vajot-Belkacem, qu'ils puissent se reconnaître dans cette histoire. Ça, c'est complètement absurde. Alors à ce moment-là, effectivement, on n'est plus nos ancêtres les Gaulois, on fait commencer l'histoire de France à la fondation de Marseille. Massilia, c'est ce que un inspecteur d'histoire demande, Dominique Borne, on commence à Marseille parce que c'était la ville du croisement, du commerce, etc., parce que ça évoque la Marseille d'aujourd'hui, et comme ça, les petits jeunes immigrés, ils se disent, ben, c'est mon histoire. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de Gaulois dans les cours de classe, on efface la Gaule et on commence par Marseille. Mais c'est un mythe. Et aussi, c'est ça qui est très dangereux. Là, ça me permet d'améliorer ma réponse, si vous voulez. On critique, avec le plus grand mépris, la notion de roman national. Ah oui, le mot de roman, ça ne va pas bien avec l'enseignement d'histoire. Mais alors, on dit même, pourquoi un récit national? Et ceux qui font cette critique remplacent ce qu'ils appellent dédaigneusement le roman national par la totale fiction du brassage perpétuel. Puisqu'il y a de l'immigration aujourd'hui, de l'immigration, il y en a eu toujours. Toujours. Et on confond même les migrations intérieures, c'est-à-dire les gens de la Creuse qui venaient à Paris ou les Bretons qui venaient à Paris, avec l'immigration d'aujourd'hui. Mais ça, c'est un gigantesque mensonge. On n'est plus dans l'histoire, on est dans l'idéologie. Et pour revenir une dernière fois à Boucheron, c'est pas la Gaule qui importe, mais c'est Cro-Magnon. Parce que le Cro-Magnon, c'était une humanité, je le cite, métisse et migrante. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'homme de Cro-Magnon? Vous voyez, donc, c'est des actualités télévisées, projetées sur la préhistoire, au nom de l'histoire. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut que l'histoire résiste aux oukases du présent et à l'idéologie pour restituer, justement, un certain sens de la continuité. Le droit à la continuité, c'est le premier des droits de l'homme, disait Ortega y Gasset, et un certain nombre de vérités factuelles aussi.
Micro. Ce sera une avant-dernière question.
Merci.
Madame.
Bonjour. Je voudrais savoir si vous êtes toujours d'accord avec l'idée que le monde est partagé entre les dominants et les dominés.
J'entends pas bien.
Oui, il faut toujours parler dans le micro. Oui,
Êtes-vous toujours d'accord avec le fait que le monde est partagé entre les
dominants
et les dominés?
Non, je crois qu'il est très légitime. Le mouvement qui consiste à défendre les faibles, à prendre le parti des démunis et des déshérités, est un mouvement très légitime. Et ça ne doit pas induire un sentiment de supériorité morale chez ceux qui choisissent d'entrer en politique par cette voie. Mais heureusement qu'ils peuvent se faire entendre. Simplement, je considère que l'histoire ne se réduit pas à cet affrontement. L'histoire n'est pas simplement peuplée de ces deux figures, le dominant et le dominé. Et c'est précisément ce que nous avons été amenés à prendre en compte, au moins d'ailleurs depuis le 11 septembre. La leçon du 11 septembre, c'est qu'il peut y avoir d'autres sources de conflits que celles-là. Notre civilisation découvre avec ébahissement qu'elle n'est pas seule et qu'elle peut être détestée en tant que telle et qu'elle doit pouvoir garder les moyens de se défendre et de se transmettre. Donc, ce que je n'aime pas, c'est voir la défense des démunis ou des démunis, des dominés, se transformer en idéologie et refuser un certain nombre de réalités dès lors qu'elles ne se conforment pas à cette vision du monde. Soit elle refuse ces réalités, elle les nie, soit elle les intègre dans son système, et là, c'est ce que fait François Burga. Ceux qui nous attaquent sont en fait nos victimes, et c'est à nous de nous amender pour qu'ils ne nous attaquent plus. Donc, je réfute l'aveuglement des uns, le travail interprétatif des autres. On ne peut pas, pour comprendre ce qui nous arrive, raisonner seulement dans les termes d'une alternative ou d'un affrontement entre dominant et dominé.
Excusez-moi, mais avant le 11 septembre, il y avait déjà des dominés, des ouvriers dans les usines, les gens...
Ce que je dis, madame, voilà, c'est que les ouvriers dans les usines, cela existe, que même on peut parler et on peut encore parler de lutte des classes, je le conçois très bien. Je conçois très bien que cette réalité doit être prise en compte, mais simplement, les auteurs de l'attentat du 11 septembre ne sont en aucun cas dédominés, pas plus que ceux qui ont ensanglanté la France en janvier 2015. Et que le discours qui consiste à transformer ces assassins en victimes, en dominés de la société, du monde occidental, blanc et capitaliste, est un discours faux et, j'ajouterais même, un discours ignoble. Donc, à cela... Je le dis avec fermeté, et c'est l'une des raisons du conflit que j'ai, sinon avec toute la gauche, du moins avec une partie de la gauche qui soit n'appelle pas les choses par leur nom, soit, encore une fois, réussit à renverser la réalité pour lui faire dire le contraire de ce qu'elle est. Et quand un homme de gauche a le courage de voir ce qu'il voit, comme Manuel Valls, eh bien, il est balayé par le reste de la gauche. Lui, au moins, il a dit « regardons la réalité en face ». Il a été battu aux primaires par un candidat dont on peut penser, sans l'insulter, qu'il est le porte-parole de l'islamo-gauchisme. Et je trouve que c'est très regrettable pour la gauche. Et donc moi, je ne plaide pas pour la droite contre la gauche, mais j'aimerais que l'état d'esprit dont Manuel Valls est le porteur soit mieux représenté à gauche.
Une dernière question, madame.
Oui, vous ne répondez pas à ma question, mais ce n'est pas grave.
Mais...
Si, madame, j'ai répondu à votre question. Il y a des dominés dans les usines. Je dis simplement que les auteurs des attentats ne sont pas des dominés et qu'on nous le présente comme des dominés. Et que cette présentation, je la juge absolument scandaleuse. C'est une réponse exacte à la question que vous m'avez posée.
Madame.
Est-ce que... Je voulais venir à un sujet assez différent. On est dans un monde qui nous oriente vers le consumérisme comme étant la solution à tout. On parle de la capacité de consommation comme la solution à la crise économique. Le digital va encore renforcer la consommation facile. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut faire grandir une culture et une civilisation ? J'en doute, mais j'aimerais vous entendre.
Écoutez, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je dirais même que c'est une des raisons de mon inquiétude face à le nouveau clivage politique qui est en train de s'imposer. Les progressistes contre les conservateurs. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce que le progrès, selon les néo-progressistes ? Une manière de mettre de l'huile dans les rouages de la machine. Et Emmanuel Macron nous propose, en guise de progrès, une vision économique du monde. Et on met fin à tous les archaïsmes pour que ça fonctionne mieux. Mais au bout du compte, l'économie, c'est quoi ? Et là, je vous rejoins. C'est la possibilité donnée de produire et de consommer toujours davantage. Et ça ne peut pas être un horizon. Et je remarque, d'ailleurs, que quand on en vient à protester contre cette vision, contre justement cette sorte de cycle perpétuel de la production et de la consommation, eh bien, ni la droite ni la gauche ne prennent véritablement ces protestations au sérieux. Il y a tout un débat, aujourd'hui, qui essaye de naître autour de la question du tourisme, notamment du tourisme de masse et des ravages qu'il exerce. En Espagne, mais aussi en Italie, et même à Palavas-les-Flots. J'ai lu par hasard un article pendant les vacances sur justement l'attitude des habitants de Palavas-les-Flots qui étaient indignés par le comportement de certains touristes. Le tourisme visant aujourd'hui moins de temps à découvrir le monde qu'à intensifier la vie, eh bien... pour les habitants, c'est des nuisances sonores absolument terribles, plus au petit matin, des canettes de bière sur les trottoirs et des papiers gras un peu partout. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et en Espagne, c'est un peu du même ordre. Tourisme de masse, tourisme d'intensification de la vie plutôt que tourisme de découverte du monde. Mais que répondent les politiques ? Et là, la droite comme la gauche, justement, c'est la modernité, c'est le progrès, c'est la production. Et donc Rajoy, le Premier ministre espagnol, qui est un homme de droite, dit « Mais enfin, écoutez, la part du tourisme dans le produit intérieur brut est énorme, c'est 13 ou 14%, il faut que ça continue, il faut que ça continue. » Et en France, on dit la même chose, et on dit la même chose de tout. Oser aujourd'hui émettre le moindre scepticisme sur l'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024, vous ne serez pas entendu. Paris a obtenu de haute lutte des Jeux Olympiques dont personne ne voulait. Mais personne. Rome, Hambourg, Toronto, Boston, Budapest, toutes les villes candidates ont retiré leur candidature parce que les populations disaient non. Voilà. Mais là, on dit non, ça augmente le prestige et puis surtout, ça fait fonctionner la machine. Donc, il y a un problème là, un véritable problème dont sont saisies et la droite et la gauche. Est-ce que la politique doit se mettre au service de l'économie ou est-ce qu'elle doit se mettre au service de la civilisation ? Moi, j'aimerais qu'elle se mette au service de la civilisation. Et je guette les signes. Je guette les signes. Mais je n'en vois aucun. Et ça me permet de conclure justement, c'est-à-dire le reproche qui m'est fait de dérive ultra-droitière, je ne le mérite pas, parce que j'en ai autant au service de la droite qu'au service de la gauche. Je me sens, si vous voulez, je ne me sens nullement représentée, je ne me sens pas plus représenté par la gauche actuelle que par la droite d'aujourd'hui. Mais cela rejoint, madame, l'inquiétude que vous avez exprimée tout à l'heure.
Sur ce mot, je vous propose que nous mettions fin à cette conversation. Vous nous avez fait passer 1h15 de bonheur absolu. Et je dois dire, je vous en remercie infiniment. Et donc, Alain Finkielkraut est maintenant pour vous dans le salon.